Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des grands entretiens de Storia Voce. Depuis les origines, la bataille de Bouvines du 27 juillet 1214 est considérée comme un événement majeur de l'époque médiévale, mais aussi de l'histoire de France. Plus tard, bien plus tard, le 19e siècle l'inscrivit même dans le roman national et le célébra comme un mythe fondateur de la nation France. Remportée par le roi Philippe Auguste contre une coalition rassemblant l'empereur allemand Othon, le comte de Flandre, le comte de Boulogne, Bouvines a longtemps donné l'image d'un combat âpre pendant lequel le roi de France lui-même a failli perdre la vie. Une bataille qui fut une sorte de couronnement, le couronnement d'un des règnes les plus importants et les plus réussis de l'époque capétienne. Tous les amoureux de l'histoire, tous les passionnés, connaissent la fameuse collection des 30 journées qui ont fait la France, collection des éditions Gallimard à laquelle le grand historien Georges Duby avait consacré un Bouvines. Mais l'étude de Duby a été publiée voilà près de 45 ans et c'est pourquoi Storia Voce vous propose de rouvrir ce dossier, sans aucun doute un des dossiers les plus fascinants de notre histoire, peut-être de déconstruire aussi quelque peu la légende au profit d'une histoire, plus précise, alimentée par une historiographie foisonnante. Mais avant de commencer, un rappel à nos auditeurs, n'hésitez pas à nous soutenir, Storia Voce. Vous savez que nous développons nos cours d'histoire et ces cours d'histoire ne peuvent se développer qu'avec votre soutien. Pour ce faire, n'hésitez pas à aller sur notre site storiavoce.com dans la rubrique « Soutenez-nous ». Dominique Barthélémy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Et vous venez de publier un magistral, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, Bouvines, la bataille de Bouvines, histoire et légende, paru aux éditions Perrin. Alors, Dominique Barthélémy, régulièrement, nous commençons notre émission en évoquant les sources, tant pour l'histoire antique que pour l'histoire médiévale. Elles sont bien évidemment importantes et vos différences de perception de cette bataille sont précisément liées aux sources. Et il est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à votre livre, on lisait la bataille de Bouvines à travers une source essentielle, les Gestas de Guillaume le Breton. Or, on ne peut aujourd'hui aborder cet événement capital de l'histoire uniquement à travers cette source.
Bien, d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité et de me joindre à votre appel aux auditeurs, à vos appels aux auditeurs à soutenir Storia Voce, qui est une très belle radio, et à s'intéresser à l'histoire, à être exigeant sur la transmission et l'amélioration de la connaissance historique.
Merci à vous.
Donc effectivement, la bataille de Bouvines est importante. Elle a pris notamment une grande importance dans toutes les histoires d'Ancien Régime depuis le XVIIe siècle et plus encore au XIXe. Et elle a été très bien racontée avec un grand talent par Guillaume le Breton, qui est le récit principal, le récit canonique, avec la version en prose qu'il a certainement écrite d'abord, donc les Gestas, l'histoire de Philippe Auguste, et puis une version en vers qui ne trahit pas complètement la version en prose, mais qui donne, on en reparlera peut-être pour, sur un ou deux points, mais qui donne à tout un peu plus d'ampleur, un peu plus de drame. Bon, par exemple, on voit les combattants se battant à la hache en donnant de gros coups au milieu d'un champ de bataille, paraît-il jonché de mort, même si cette épopée latine de la Philippide n'insiste pas trop. Mais on reste quand même dans un récit proche de celui des Gestas, donc il y a bien une unité entre les deux témoignages de Guillaume le Breton. C'est un témoignage à la louange et à la gloire du roi capétien qui est passé dans les grandes chroniques de France, histoire des rois au Moyen-Âge, et de là, assez naturellement, dans l'histoire de France, avec des épisodes majeurs, bien connus. Bon, on a commencé à me les raconter lorsque j'étais enfant. Philippe Auguste désarçonné, menacé par ses adversaires, et le comte de Flandre Ferrand, battu, fait prisonnier et ramené à Paris et ferré comme un cheval et dont le bon peuple se moque en disant « te voilà ferré, Ferrand ». Donc ça, c'est la source majeure. Mais il se trouve que, comme souvent pour les grands événements historiques pas trop anciens, Bouvines est quand même beaucoup mieux connu que si c'était dans le haut Moyen-Âge, à l'époque des Mérovingiens ou Carolingiens, et moins bien que si c'était une bataille moderne, mais malgré tout, on commence à avoir au XIIIe siècle des dossiers un peu étoffés. Bouvines est quand même mentionné par beaucoup d'autres sources, pour certaines d'entre elles d'une manière tout à fait légendaire et très mal informée, mais il y a quand même au moins 4 ou 5 chroniques et qui donnent des récits à la fois un peu parallèles à Guillaume le Breton, plus bref, un peu concurrent, un peu complémentaire, et par exemple un récit en prose française d'un auteur qu'on appelle l'anonyme de Béthune, ou bien un récit dans une espèce de prose rimée du tournésien Philippe Mousquet, qui sont quand même des sources d'une certaine valeur. En plus, chose nouvelle pour le début du XIIIe siècle, on a des archives de la Tour de Londres qui nous montrent comment on avait constitué la coalition contre Philippe Auguste, et archives françaises du Trésor des Chartes à Paris qui nous montrent ce qu'on a fait des prisonniers, comment les communes de Philippe Auguste les ont ramenés à Paris et ensuite quelles démarches ont été faites pour leur rançon. Donc on a malgré tout un dossier de source assez considérable. Évidemment, c'est presque rien si on comparait ça à une bataille napoléonienne ou plus encore à une guerre du XXe siècle, mais c'est beaucoup plus que ce qu'on avait jusque-là dans le haut Moyen-Âge.
Alors justement, vous citez les batailles napoléoniennes et dès les premières pages de votre ouvrage, vous expliquez bien qu'il faut sortir absolument de l'image que l'on peut avoir des armées telles qu'on l'a à l'époque moderne, à l'époque du XVIIIe, du XIXe siècle et plus encore du XXe siècle. L'armée moderne ou l'armée contemporaine n'est pas ce que l'on appelle l'ost médiéval.
Oui, alors comme beaucoup de médiévistes, j'emploie volontiers le terme d'ost parce que je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que la gestion, la discipline, la composition même, c'est quand même des armées en un sens, mais de ces groupes qui s'affrontent, n'a quand même, sous certains angles, que peu de rapport avec une armée moderne. Par exemple, si vous tuez quelqu'un à la guerre, vous êtes responsable, vous risquez une vengeance, une rancune qui se traduira par des voies de fait ou des démarches judiciaires, bon, ce qui évidemment est impensable dans une armée moderne.
Ça veut dire que l'armée médiévale, enfin l'ost médiéval, est plus noble et ne cherche pas forcément à tuer, mais plutôt à faire prisonnier.
Du coup, comme on risque ce droit de vengeance, ça a sûrement contribué effectivement à faire que, au moins dans la partie noble de l'ost, eh bien, on fasse attention. On fasse attention, en effet, qu'on choisisse contre quel adversaire on se tourne au cours d'un combat, qu'on prenne garde de le faire prisonnier gentiment, de peur d'avoir des problèmes ensuite, ou dans l'espoir d'ailleurs de faire de lui un allié, car après tout, avoir un prisonnier, c'est aussi un moyen de faire sa connaissance et de parler avec lui. Il y a un petit peu de ça. Et puis d'autre part, on n'est jamais obligé dans un ost, en tout cas quand on est un chef d'une bannière, un chevalier banneret, et plus encore un duc, un comte important, on n'est tout de même jamais obligé d'obéir aveuglément au roi qu'on suit. Le roi est obligé de prendre conseil, de tenir compte de ce qu'on lui dit. Donc il n'y a pas place pour tous les calculs stratégiques d'une armée moderne. Mais c'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même pas le bazar. On sent qu'il y a aussi des coordinations, des ordres et des réponses. Enfin, donc, c'est pas non plus le contraire absolu d'une armée. Et on voit bien qu'il y a quand même des chefs qui peuvent faire accepter et faire une manœuvre. Là, nous sommes obligés d'être un tout petit peu nuancés quand même. C'est pas l'ordre absolu d'une armée moderne, mais il y a tout de même des manœuvres qui sont accomplies effectivement.
Alors nous allons revenir bien évidemment en fin d'émission sur le mythe, hein, sur le est-ce que on peut considérer Bouvines comme la première guerre nationale des Français? Est-ce qu'en somme Bouvines est à l'origine de ce qu'on appellera plus tard la nation France? Mais je souhaiterais immédiatement en fait me replonger dans le contexte de l'époque. Parler de Bouvines, c'est replacer, c'est d'abord prendre en compte la place de la Flandre au XIIe siècle. Quelle est la place de la Flandre au XIIe siècle et quel rôle joue cette Flandre dans le conflit qui se joue à Bouvines?
Alors, la Flandre est incontestablement le principal adversaire de Philippe Auguste à Bouvines, et même la partie de la bataille dont on est sûr qu'elle se déroule justement avec un certain ensemble et avec une certaine ardeur, c'est la bataille entre une partie de l'ost de Philippe Auguste et celui du comte de Flandre et de Hainaut, qui est le fameux Ferrand. La Flandre est une principauté dont le comte est vassal du roi de France, qui couvre en fait une bonne partie des Hauts-de-France actuels. C'est vraiment, il y a un bout de Picardie au point de départ, mais Philippe Auguste grignote petit à petit les positions du comte de Flandre, qui compte bien entendu la Flandre belge actuelle, et qui pour une partie de ce pays dépend malgré tout de l'Empire. La Flandre est une principauté qui chevauche la frontière entre la France et l'Empire. Elle est principalement en France, mais le comte est également vassal de l'empereur, ce qui lui donne une certaine marge de manœuvre à ses risques et périls. Et puis c'est un pays riche, c'est un pays qui a des liens économiques avec l'Angleterre. On va très vite en Angleterre depuis la Flandre en passant le Pas-de-Calais. Et l'Angleterre peut aussi travailler, elle ne s'en prive pas, elle ne s'en privera pas au cours du Moyen-Âge, à dresser la Flandre contre le roi de France. Donc la Flandre est à la fois une proie tentante pour le roi capétien, pour l'augmentation de son pouvoir, et une proie difficile. Et au cours du XIIe siècle, il a essayé de la dominer ou de la neutraliser un peu en douceur, et avec Philippe Auguste, il commence à s'y prendre un peu plus énergiquement, sans excès de délicatesse, en une série de campagnes, de marches et contre-marches, qu'en effet je raconte aussi clairement que je peux, en essayant de pas trop allonger le développement, mais que je suis obligé quand même de raconter avec pas mal de détails dans le début de cette histoire de Bouvines.
Est-ce que vous évoquiez l'Angleterre, vous évoquiez l'empereur, vous parlez longuement de Richard Cœur de Lion, de son affrontement avec Philippe Auguste. Quel rôle joue, parce qu'à vous entendre, la Flandre a cette place primordiale, derrière joue également l'Empire et les Plantagenêts?
Alors, dans la politique de Philippe Auguste, la Flandre a une place très importante, mais son objectif privilégié a quand même sans doute été de réduire la puissance des Plantagenêts, qui étaient à la fois roi d'Angleterre, duc de Normandie, comte d'Anjou, et même par mariage, finalement, duc d'Aquitaine. Et donc, il y a eu toute une partie, tout un affrontement assez long, notamment entre 1588 et 1204, entre Philippe Auguste et les Plantagenêts. La Flandre n'était pas toujours avec les Plantagenêts, mais en 1204-1205, Philippe Auguste, après la mort de Richard Cœur de Lion, a quand même pu frapper un grand coup en s'emparant de la plupart des principautés que le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, avait en France. Donc il a beaucoup avancé au détriment des Plantagenêts, et à partir de là, il est devenu plus puissant qu'avant. Donc finalement, il a provoqué un peu une levée de bouclier contre lui, et là la Flandre en 1212-1214 est largement hostile, enfin à quelques nuances près, la ville de Tournai est pro-capétienne, mais enfin à quelques nuances près, la Flandre est très hostile au roi Philippe Auguste, qu'elle sent d'autant plus menaçant qu'il a remporté une victoire importante sur les Plantagenets en 1204-1205.
Mais alors, vous l'écrivez vous-même, puisque Ferrand était quelque sorte un protégé du roi, donc Ferrand de Flandre. Comment a-t-il pu trahir et prendre langue donc avec Jean sans Terre?
Le problème, c'est que Ferrand, qui était le fils cadet évidemment d'un roi de Portugal, donc un cadet de famille royale, était étranger à la Flandre, et donc a été était mariée à l'héritière, c'était une femme, Jeanne, qui était l'héritière du comté de Flandre. Il a été marié par Philippe Auguste, par l'intervention de Philippe Auguste, mais une fois arrivé en Flandre, d'abord il a été traité sans élégance sur un petit détail, mais quand même les places d'Air et Saint-Omer, on les lui a prises là comme ça, quelques semaines après son mariage avec l'héritière, ça lui a beaucoup déplu, on peut le comprendre, mais surtout, il a été obligé, s'il voulait se faire accepter de ses sujets flamands, de s'éloigner de Philippe Auguste. C'était un protégé de Philippe Auguste, mais s'il voulait que ça aille bien avec ses propres vassaux, avec la plus grande partie d'entre eux, c'était quand même difficile de rester à sa botte. Hein. Mmh, mmh.
Alors venons-en précisément à la bataille de Bouvines, donc Philippe Auguste face à cette coalition. On n'a pas parlé d'ailleurs de Boulogne-sur-Mer, alors que l'actuelle Boulogne, on pourrait en parler. Comment se fait-il que le comte de Boulogne se soit mêlé également de cette affaire?
Alors le comte de Boulogne est un personnage plein de panache, mais un petit peu transgressif aussi sur les bords. C'est Renaud d'Anmartin, et donc est originaire de l'Île-de-France, qui est d'une famille vassale de Philippe Auguste, d'un rang quand même assez élevé. Et comme souvent ce type de famille, il a des attaches dans plusieurs régions. Et puis, son panache lui permet de séduire, d'enlever consentante, hein, l'héritière du comté de Boulogne en 191, si je me rappelle bien. Et donc, ce Renaud, au départ, il n'avait pas trop mauvais rapport avec Philippe Auguste. Bon, il n'avait jamais été très franc du collier, mais Philippe Auguste non plus. Et donc, il s'est installé dans le comté de Boulogne avec l'accord de Philippe Auguste, mais il a fait un petit peu trop de va-et-vient entre Philippe Auguste et ses adversaires. Et finalement, il y a eu une crise grave entre eux vers 1210-1211. Renaud a été brouillé avec Philippe Auguste parce qu'il avait une haine particulière contre des cousins, hein, la famille de Dreux. Toute cette histoire féodale est lourde d'un certain nombre de conflits et de dissensions. Et finalement, il a carrément viré dans le camp adverse en 1211-1212. Et il a été un élément très important pour nouer la coalition entre le comte de Flandre, l'empereur, ou du moins le prétendant, enfin, l'un des empereurs, hein, l'empereur Othon de Brunswick, qui était le neveu de Jean Santerre, et Jean Santerre lui-même, donc nouer une coalition contre Philippe Auguste en 1214.
Alors pour être complet, on sait que la papauté jouait un rôle à cette époque. Est-ce que le pape Innocent III est intervenu dans ce conflit en amont?
Alors absolument, donc Jean Santerre était évidemment, et Philippe Auguste était des rois chrétiens, et traditionnellement, la papauté, depuis quelques décennies en tout cas, s'efforçait d'une part de réduire l'importance de l'Empire qui couvrait l'Allemagne et l'Italie, en tout cas d'empêcher l'Empire d'établir une véritable prédominance en Europe, et elle s'efforçait aussi globalement de tenir un certain équilibre entre la France et l'Angleterre. Et alors, à l'époque qui précède Bouvines, la papauté commence par être en conflit avec Jean Santerre qui traitait mal l'Église anglaise, donc à le faire menacer par Philippe Auguste, mais comme Innocent III ne tient ni à favoriser des guerres graves entre chrétiens, ni à donner vraiment l'avantage à l'un des deux pays, France ou Angleterre, sur l'autre, à un moment il a en quelque sorte un petit peu lâché Philippe Auguste en se réconciliant avec Jean Santerre, et donc en 1214, Philippe Auguste se dit appuyé par la papauté, mais il a des ecclésiastiques, et notamment son cher frère Guérin, qui est l'évêque élu de Senlis, avec lui. Il se réclame du bon combat contre l'empereur Othon parce qu'il est excommunié, mais on ne peut pas dire qu'il soit soutenu d'une manière décisive par le pape.
Alors venons-en à la bataille, Dominique Barthélémy, en elle-même. Est-ce qu'il est facile pour un historien de se rendre compte de la réalité de ce que fut cette bataille?
Alors non, ce n'est pas facile. Le plus important, c'est d'abord de pouvoir faire le partage entre ce qu'on sait avec certitude et ce sur quoi on peut avoir des doutes et ce sur quoi même il y a de vraies lacunes. Maintenant, il y a quand même une manière d'essayer de s'approcher un peu de la réalité de la bataille. Il faut forcément une part d'imagination, une part d'hypothèse entre les lignes des sources et aussi au moment de reconstituer une manière un peu panoramique, de faire la synthèse de ce qui a pu se passer. Mais on est convié à lire d'autres récits de bataille, à s'informer, à acquérir un peu de familiarité avec les campagnes, les tactiques, les stratégies des différentes guerres de l'époque. Nous avons quand même beaucoup d'autres récits de campagne et de bataille. Et donc, j'ai fait simplement le pari que la campagne de 1214 devait pouvoir être interprétée, expliquée à la lumière ou en relation avec d'autres campagnes du XIIe et du XIIIe siècle, dont certaines sont assez bien documentées aussi. Et donc, des campagnes dans lesquelles la grande bataille est rare et n'est souvent en réalité que partielle et donne rarement des résultats décisifs. Donc, j'ai tendu à interpréter Bouvines un petit peu en consonance, en analogie, en essayant de pas trop forcer non plus dans ce sens, avec les batailles entre Capétien et Plantagenet du XIIe siècle, ou même d'autres, enfin, d'Angleterre ou d'Italie à la même époque.
Est-ce qu'on a une idée des forces en place, des effectifs militaires?
Alors, les effectifs ont été extrêmement gonflés par certaines chroniques pro-capétiennes et qui tendaient à dire qu'il y avait très peu de Français contre une armée, de Français du roi, contre une armée adverse extrêmement importante, que c'était un miracle.
David
qu'on avait
contre
gagné
Goliath.
David contre Goliath, 1 contre 1000, 200 contre 200 000, etc. Alors, à la suite de beaucoup de réflexions, en consultant les archives, en se renseignant sur les effectifs dont, pendant toute une période, le roi Philippe Auguste ou ses adversaires pouvaient disposer. On est certain qu'il n'y avait pas plus de 10 000 hommes dans chacune des deux armées, que s'il y avait 1200, 1500 chevaliers de part et d'autre, c'était beaucoup, qu'il y avait peut-être pas beaucoup plus de 3000 piétons. Et en plus, on n'est quand même pas certain que tout le monde ait vraiment participé à la bataille. Et donc, l'interprétation que je donne tend même à dire qu'on n'est pas sûr que tous les effectifs aient été engagés de part et d'autre, et en particulier que les milices ou communes des grandes villes flamandes, comme Gand ou Bruges, ne sont pas entrées dans le combat. C'est-à-dire que la chevalerie flamande ne les a pas attendues, ou bien en voyant assez vite que ça tournait mal, elles se sont débandées. Donc, je ne pense pas que les communes flamandes soient entrées dans la bataille, ce qui est quand même aussi une explication de la victoire du roi capétien, parce que le jour où elles entreront dans la bataille en 1302 à Courtrai, hein, il y a un beau livre de Xavier Larry là-dessus, qu'on peut lire aussi, ça fera très très mal. Hein, la chevalerie française subira en 1302 une très grave défaite à Courtrai devant les communes flamandes qui, à Bouvines, ne sont pas entrées dans la bataille.
Alors, il y a évidemment cette date, 27 juillet 1214, 27 juillet 1914, dans un tout autre contexte qui est celui du déclenchement de la Grande Guerre. Et évidemment, en 1914, on va mettre en avant l'allemand lors de la bataille de Bouvines. Est-ce que c'était une réalité? Est-ce que on peut considérer, nous avons parlé du roi d'Angleterre, nous avons parlé d'Othon, est-ce qu'on peut considérer Othon comme un des belligérants majeurs, et est-ce que à Bouvines il y avait des Allemands?
Alors, il y avait
des soldats de l'empereur.
Il y avait quelques Allemands à Bouvines. L'empereur Otton de Brunswick était un Allemand du Nord, mais en réalité, ils étaient très peu nombreux. La coalition qui était en face de Philippe Auguste était un petit peu disparate. Certainement, les gros bataillons, c'était ceux du comte de Flandre avec le Hainaut. Il y avait aussi des comtes, et qui étaient très déterminés, certainement, contre l'Ost capétien. Et il y avait des renforts qui lui venaient de la Basse-Lorraine, c'est-à-dire en gros de la Belgique actuelle, différentes régions de la Belgique actuelle, qui étaient déjà beaucoup moins déterminées. Et puis l'empereur Othon était venu avec, c'est difficile de dire combien exactement, il y a quand même eu une vingtaine de prisonniers allemands chevaliers répertoriés, mais sans doute assez peu de troupes. Pour faire venir des piétons d'Allemagne du Nord, il fallait leur faire beaucoup de chemin, franchir le Rhin, c'était pas du tout dans les habitudes. Il ne devait donc avoir qu'un petit nombre de chevaliers et les piétons qu'il fallait avoir, évidemment, pour servir de valets aux chevaliers. Mais le problème, c'est que l'empereur était le plus haut en dignité. Et donc, dans les récits, d'abord, dans la réalité, c'est sans doute lui qui, effectivement, s'est placé en face du roi de France au moment où il a pu le faire. Je pense que le comte de Flandre n'a pas voulu, justement, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, il avait eu des liens avec Philippe Auguste, il n'a pas voulu, il n'a pas eu se trouver en face de lui. Donc, pour faire face au roi de France, on ne pouvait mettre que l'empereur, avec un tout petit nombre d'Allemands, et aussi quelques troupes de Basse-Lorraine. Bon. Alors, ces troupes de Basse-Lorraine étaient peu déterminées. Elles avaient d'ailleurs beaucoup de raisons de ne pas avoir envie de combattre vraiment Philippe Auguste. Et donc, elles se sont débandées assez vite. On ne sait pas exactement à quel moment de la bataille. Si bien qu'à un moment, Othon s'est trouvé face à un ost français qui allait de l'avant, vers lui, et un petit nombre d'Allemands. Ces Allemands étaient des chevaliers, la chronique de Guillaume le Breton, son récit en vers aussi de la Philippide, a un petit peu grossi l'épisode, en parlant de ce combat entre, il dit, les Parisiens et les Saxons, les Francs et les Teutons. Il a fait un petit peu monter la mousse, je dirais, il a fait mousser un peu les adversaires allemands. Ça faisait chic pour les vainqueurs français, oui, d'avoir eu en face d'eux, oui, un empereur, d'avoir battu des Teutons. Et donc, il y a des envolées lyriques certainement très exagérées. Mais on voit bien, même dans Guillaume le Breton, que ces Allemands, il les trouve très bien, il dit du bien d'eux, et finalement, ils ont été faits prisonniers. Guillaume le Breton dit qu'ils étaient animés de la fureur habituelle aux Teutons, mais en réalité, ils n'avaient pas complètement perdu la tête. Un certain nombre d'entre eux ont un peu couvert la fuite de l'empereur, puis après ça, ils se sont rendus aux Français. Ils ont eu la présence d'esprit de se rendre, et ils ont trouvé qu'un petit séjour à Paris, les Allemands ont toujours aimé Paris, était plein d'intérêt, qu'ils pourraient discuter des aventures de Perceval ou Parsifal avec leur geôlier. Ils ont été sans doute assez bien traités. Donc, il n'y a pas du tout de véritable haine franco-allemande dans le dossier médiéval de Bouvines. On peut dater très précisément le moment où Bouvines est devenu une bataille franco-allemande, c'est au XVIe siècle, à l'époque, et au XVIIe, à l'époque des affrontements donc entre les Valois, puis les Bourbons, et la maison d'Autriche. Dès le XVIIe siècle, Philippe Auguste est en proie à 10 000 Allemands en furie, alors que dans Guillaume le Breton, ils étaient 25 chevaliers à se battre assez élégamment contre des Français qui ont dû laisser filer l'empereur. Donc il y a vraiment très vite un écart important qui s'est établi entre, je crois, la réalité historique qui est que les Allemands jouaient un faible rôle dans la bataille et la mythologie française de Bouvines. Et alors, ça n'a fait que croître et embellir jusqu'à l'époque de Bismarck, de 1870-1871, et la veille de la guerre de 14-18, où Bouvines devient une bataille franco-allemande.
Je vous cite, vous écrivez « Normalement, la campagne de 1214 devrait pouvoir aller à son terme sans bataille importante, les Ostes patrouillant en zone de marche, en s'évitant plutôt qu'en se cherchant, comme ce fut le cas de ceux de Philippe Auguste et de Philippe d'Alsace en 1184 et 1185. » Encore une fois, on n'a pas l'impression d'une grande déflagration, et au contraire, elle n'apparaît pas comme une bataille sanglante.
Alors, il ne faut certainement pas exagérer le caractère sanglant de la bataille. Je suis pas sûr que cet été une bataille avec zéro mort. Hein. Il y a quand même, ici et là, on parle de personnages qui ont été tués, mais enfin, c'est deux sergents de Soissons, c'est un chevalier Banneret à proximité de Philippe Auguste. Et vers le soir, quand la plupart des adversaires de Philippe Auguste, et notamment ceux qui sont à cheval, les chevaliers ont fui, il reste 700 piétons du Brabant, ou peut-être seulement 300 ou 400, qui n'ont plus le temps de fuir, et dans le récit de Guillaume le Breton, Philippe Auguste donne l'ordre de les liquider, et ils le sont en effet, enfin, sauf que le texte n'est pas absolument clair là-dessus. Donc, il y a sans doute eu, au soir de la bataille, un certain nombre de piétons, donc Lorrain, Brabançon, à qui les vainqueurs français ont fait un sort. Mais ce qui est frappant, c'est que les sources, même françaises, même celles de l'armée victorieuse, de l'ost victorieux, disent du bien et font l'éloge du courage de ces piétons qui sont restés les derniers sur le champ de bataille. Tout le monde parle des bons sergents de Brabant qui ont tenu jusqu'au bout.
C'est une bataille défensive, en fait.
Alors, en fait, non, mais il est probable, hein, c'est ce que j'arrive à proposer comme le plus vraisemblable, il est probable que les adversaires voulaient seulement surprendre l'arrière-garde de Philippe Auguste, donc l'arrière-garde avait à se défendre, et qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient avoir à combattre contre l'ensemble de l'ost de Philippe Auguste qui se repliait. Et donc, c'est certainement, en effet, l'ost de Philippe Auguste qui a été attaqué. Mais une fois attaqué sur l'arrière-garde, évidemment, et étant parvenu à se regrouper, à venir au secours de leur arrière-garde plus rapidement que ne l'escomptait l'adversaire, là, l'ost capétien est certainement monté à l'offensive, et son avancée, donc, s'est heurtée aux Flamands et ennuyée qu'ils l'ont affronté un petit moment autour du comte de Flandre. Alors que l'armée lorraine, les contingents lorrains qui étaient autour de l'empereur Othon se sont assez rapidement retirés. Et il n'y a eu là que des combats, à mon avis, relativement sporadiques.
J'évoquais dans mon introduction le fait que la vie du roi était mise en danger. En fait, on ne le sait pas.
On n'en est pas tout à fait sûr. Il y a un petit doute. Alors, c'est vrai que Guillaume le Breton met un bel épisode où Philippe Auguste a été jeté à terre, où des piétons adverses, qui ne sont pas des Allemands, contrairement à ce qu'on a souvent écrit à cause d'un contresens dans le latin de la Philippine, des piétons qui ne sont pas des Allemands, sans doute pas des Allemands, en tout cas, mais plutôt des Lorrains, se trouvent autour de lui, mais ils essayent de le tuer, mais il a une forte armure, il est protégé par Dieu, et puis des petits chevaliers ou des écuyers nobles de sa maisonnée guerrière viennent à son secours. Bon, alors c'est ce que dit Guillaume le Breton, donc on parle beaucoup de Pierre Tristan, de Galon de Montigny, de Guillaume des Barres, qui viennent à son aide et qui en retirent beaucoup de gloire. D'ailleurs, ils vont avoir énormément de descendants, de gens qui prétendront descendre d'eux au XVIIe, au XIXe siècle, encore. Mais le problème, c'est qu'il n'y a vraiment aucune source indépendante de Guillaume le Breton qui le confirme. Et on a l'impression, plutôt, d'après deux autres sources, que peut-être bien Philippe Auguste est tombé, mais dans une bousculade au milieu des siens. Donc on ne sait pas très bien, je crains qu'on ne sache jamais. Et on comprend très bien que ça fait plus joli s'il est tombé au milieu des ennemis et si des petits chevaliers courageux sont venus à son aide. Ça fait bien, notamment pour les petits chevaliers courageux.
La victoire de Bouvines, au fond, n'est-ce pas le fait d'avoir fait prisonnier Ferrand de Flandre et Renaud de Dammartin?
Alors donc, effectivement, dans ces guerres féodales où les batailles sont rares et où elles ne sont pas totales, le résultat est souvent un petit peu incertain. Militairement, on ne peut même pas dire que l'ost de Philippe Auguste a entièrement détruit l'ost adverse. Il n'y a absolument pas eu de poursuite napoléonienne. Il y a des troupes de Gand et de Bruges qui ne sont pas entrées en ligne. Donc, Philippe Auguste n'a probablement pas même le moyen d'envahir la Flandre et de s'en saisir. Il n'en a d'ailleurs pas le droit, et il faut toujours avoir quand même un argument de droit dans un cas comme ça au Moyen-Âge, puisque la comtesse héritière, c'est Jeanne, la femme de Ferrand, c'est une femme, et bon voilà, elle reste en place de toute manière. Mais évidemment, d'avoir capturé son mari, le comte Ferrand et Renaud, le comte de Boulogne, ça permet d'exercer sur la Flandre et sur la coalition pendant les mois suivants et finalement pendant les années suivantes une certaine pression. Ça permet de dicter à la Flandre, pour avoir la libération de son comte, des conditions assez dures. Ça permet aussi de célébrer une belle victoire en se vantant d'avoir ramené Ferrand Ferré, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais ça n'est pas une victoire totale. Finalement, Philippe Auguste ne fait pas la conquête de la Flandre après Bouvines, alors qu'en 1204, après la prise de Château-Gaillard, il avait fait la conquête de la Normandie. Il avait un argument de droit beaucoup plus fort pour confisquer la Normandie à Jean sans Terre, et il avait sans doute aussi un soutien, ou en tout cas une acceptation de la population normande, alors que les Flamands haïssaient Philippe Auguste.
Nous avons évoqué 1914, vous avez évoqué le XVIe siècle et le rôle de l'Allemand dans la représentation. On sait que ce genre de bataille peut, avec le temps, prendre des orientations, de perceptions différentes. Mais là, ce qu'il y a d'étonnant, c'est comment se fait-il que la bataille ait tant marqué les esprits à l'époque ?
Alors,
Qu'il y a une sorte d'entreprise, de ce qu'on appellerait aujourd'hui une entreprise de communication sur
alors,
le sujet ?
Il y a certainement, vous avez tout à fait raison, une entreprise de communication. Philippe Auguste fait célébrer sa victoire, fait dire des tédéums dans les églises, et les monastères, des évêchés qui sont assez loin du champ de bataille, qui ne connaissent pas très bien les choses, répandent l'idée, en effet, d'une victoire miraculeuse donnée par Dieu, qui prouve l'aide miraculeuse de Dieu au roi capétien. D'ailleurs, s'il avait subi un échec et s'il avait été obligé de s'enfuir, il aurait pu aussi faire célébrer, il l'avait fait lorsqu'il avait été battu sévèrement en 198 à Courcelles, près de Gisors, par Richard Cœur de Lion, il aurait pu faire célébrer aussi sa sauvegarde, le fait que Dieu l'avait sauvé. Et donc, ce qu'il y a de tout à fait étonnant dans la communication de Philippe Auguste, c'est évidemment une communication de vainqueur, hein, mais cette communication se plaît à dire qu'il a été en danger, que la bataille a été difficile, pour mettre en valeur l'aide de Dieu. Et d'une certaine façon, pour faire mettre en valeur l'aide de Dieu au roi et au roi seul, pour mettre le roi au cœur de la bataille, alors qu'en réalité, c'est pas lui personnellement qui a fait prisonnier ses grands adversaires. La partie la plus réellement disputée de la bataille, elle n'a pas été livrée par lui et sa maisonnée. Et donc, prendre les choses comme ça, dire le roi a été en danger, c'est aussi le mettre au centre des choses.
Est-ce qu'on peut-être un peu provocateur en disant que c'est une victoire un peu inventée?
Ah non, je crois, non, elle n'est pas inventée, ça non, parce que véritablement, faire prisonnier le comte de Flandre pour Philippe Auguste, c'est quand même une excellente chose. Il était dans une situation un tout petit peu épineuse en 1214. Il avait sans doute pas intérêt à prendre l'empereur Othon, c'était aussi bien qu'Othon s'enfuit, ça c'est Xavier Hilary qui me l'a fait remarquer, je crois qu'il a pleinement raison, parce que au fond, En Allemagne, Otton avait un rival, c'était Frédéric de Hohenstaufen. Otton était déjà un peu à la dérive quand il est venu à Bouvines. Il espérait se redresser par un succès de prestige. Il l'a pas eu. Il rentre en Allemagne et à partir de là, il va mourir presque oublié à Brunswick. Il a perdu la partie dans une guerre civile allemande. Mais malgré tout, c'est un allié de Philippe Auguste, Frédéric de Hohenstaufen, qui l'emporte en Allemagne. Et donc, les avantages politiques de Philippe Auguste ne sont pas négligeables. Mmh. Mais l'histoire de France traditionnelle, le roman national, si on veut, ont certainement exagéré l'importance du danger que courait Philippe Auguste au début de 1214. Et donc, par voie de conséquence, on a pu grossir aussi l'importance de la victoire. Donc, on n'a pas inventé la victoire, mais on l'a amplifié par de la communication au Moyen-Âge et par des raisonnements un petit peu anachroniques dans l'histoire de France ultérieure.
Alors précisément, dans votre deuxième partie, vous présentez la perception de la bataille de Bouvines en soulignant bien le fait que cette perception varie en fonction des régions. Et on utilisera le terme de région plutôt que celui de nation.
Alors, on peut toujours parler naturellement de nation. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le mot serait totalement anachronique dans le haut Moyen-Âge, mais il est vrai que, donc, après tout, autour du roi, la noblesse forme une sorte de nation franque. Hein. Mais il est vrai que la nation donc ne se définirait pas de la même manière qu'à l'époque moderne. La nation par excellence autour du roi de France, c'est les nobles, et à dire vrai, on ne voit pas très bien que dans leur esprit, les bourgeois et les serfs fassent vraiment partie de la nation. Hein. C'est le côté très, très, très limité. Et puis, il n'y a pas non plus du tout toutes ces idées de race française qui vont intervenir dans les récits de Bouvines du 19e siècle, et il n'y a pas ces idées de guerre inexpiable entre des royaumes, même face à l'Angleterre, pour l'instant. Ça va venir un peu plus tard. Mais malgré tout, on parle de patrie française, on parle aussi de patrie flamande hein, dans les textes flamands. Donc il y a quand même un petit quelque chose qui n'est pas l'exact contraire du nationalisme moderne. Vous voyez, je suis nuancé aussi là-dessus.
Mais la notion de patrie en danger serait une notion anachronique.
La notion de patrie en danger, c'est la Révolution française qui recourt à une levée en masse, et ça ne se fait pas au XIIIe siècle.
Alors vous décrivez dans toute votre troisième partie la postérité de l'événement. Alors évidemment, il y a énormément de choses. Avant d'enregistrer cette émission, nous évoquions un peintre, Georges Mathieu, qui est originaire de Boulogne-sur-Mer, ceci expliquant cela, comme si Boulogne devait faire son mea culpa de son engagement contre Philippe Auguste, et vous évoquez une toile qui vous a marqué.
Alors effectivement, hein, il y a l'abstraction lyrique de Georges Mathieu, qui est un grand peintre, nouveau à un certain nombre de très beaux tableaux, hein. Il y a l'hommage à Condillac, il y a beaucoup de choses, mais en 1953, à partir de 1953, il a fait une série de tableaux appelés « Les Capétiens partout », en s'inspirant des grands épisodes de l'histoire capétienne. Alors évidemment, le paradoxe, c'est que c'est un peintre abstrait. Et son abstraction lyrique, c'était, cela consistait en réalité à peindre selon son inspiration, mais à la suite tout de même d'une réflexion et d'une élaboration préliminaire, en pensant aux grands événements. Et pour ce qui est du tableau qu'il appelle la bataille de Bouvines, en disant que la grande traînée noire qu'on voit représente Otton en fuite. Et puis alors, il voulait tellement se dire ou se sentir inspiré par ce qui était pour lui une grande bataille. Hein. Il était quand même tributaire du grossissement épique et nationaliste de Bouvines quand il a fait ce tableau, donc qui est de 1954. Eh bien, il voulait lui-même se mettre au fond dans le rôle de Philippe Auguste, et il s'est installé dans un studio pâté un dimanche après-midi, alors là c'était en avril 54, et, en faisant le tableau à l'heure et dans le timing de la bataille de Bouvines. Et après, il a fait traîner le tableau jusqu'à la Seine pour figurer le comte Ferrand dans un char à beurre. Enfin, il a fait une espèce de mise en scène, c'est quelque chose d'un petit peu surréaliste ou canularesque, qui est assez amusante et qui est racontée en effet donc dans une biographie de Georges Mathieu à laquelle je me suis reporté.
Alors j'ai commencé cette émission en évoquant ce livre incontournable de Georges Duby. Peut-être un mot sur cet historien que vous avez connu.
Alors Georges Duby, ça a été un de mes maîtres, hein. Il a écrit un très beau livre sur Bouvines qui date de 1973, qui est vraiment un chef-d'œuvre d'évocation, hein, qui mérite d'avoir une très bonne place, une très grande place dans toutes les bibliothèques. Il m'a servi de référence et d'inspiration. Et donc, je considère, il y a un chapitre de mon livre là-dessus, que c'est une approche pionnière. C'est quand même un livre relativement rapide, hein, très, très, très palpitant, très, très, très riche, bien que relativement bref sur la bataille et sa mémoire. Donc, c'est une source d'inspiration. J'ai pensé, et je me suis aperçu qu'on pouvait effectivement aller plus loin, mais dans le même sens que lui, c'est-à-dire que on peut constater que, comme Georges Duby, en poursuivant, en reprenant la plupart de ses arguments, en corrigeant peut-être un ou deux au passage, et en poursuivant la recherche, eh bien, je dédramatise la bataille de Bouvines, sans l'annuler complètement. Et comme Georges Duby aussi, on en a parlé tout à l'heure, je prends à bras le corps un peu la propagande capétienne et je continue dans une voie qu'il a ouverte.
Donc à côté du Duby, chers auditeurs, je vous incite à acheter et à poser dans votre bibliothèque le livre de Dominique Barthélémy, donc La bataille de Bouvines, un ouvrage absolument indispensable pour tous les passionnés d'histoire médiévale, mais aussi pour les autres. La bataille de Bouvines, histoire et légende, parue aux éditions Perrin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce.